N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
Merci. Ah ben non, mais viens, viens, vas-y, vas-y. Donc...
de son sein. Alors qu'est-ce qu'ils disent, ces faux prophètes ? Plusieurs choses, mais nous en retiendrons deux principalement. D'abord, Jésus n'est pas le Fils. Jésus n'est pas le Christ. Il nie l'incarnation. Et par là même, il proclame que nous pouvons être en communion avec Dieu sans passer par le Fils. Et puis ensuite, ils affirment que finalement, notre façon de vivre, notre comportement n'a pas d'impact véritablement sur notre relation avec Dieu. Ce que je peux faire, tout ce que je peux dire, n'est pas préjudiciable à ma relation avec Dieu. Ma désobéissance à sa volonté ne porte pas atteinte à la communion que je peux avoir avec lui. Alors face à ces enseignements nouveaux auxquels l'Église est confrontée, eh bien l'apôtre propose une série de tests dont d'ailleurs Trevor a commencé de nous parler il y a 15 jours. Jean propose donc à ses lecteurs des tests avec clairement pour objectif celui de les rassurer. Celui de les rassurer, de rassurer ses lecteurs. Alors Jean propose des tests que les croyants authentiques ne peuvent que réussir. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont toute la connaissance nécessaire pour les passer avec succès. Nul besoin pour eux d'avoir un enseignement nouveau, supérieur. L'enseignement apostolique qu'ils ont reçu est pleinement suffisant. Alors le premier test que Jean propose à ses lecteurs, donc, c'est celui de la foi. Voilà, premier test, croyez-vous que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu ? Dieu fait chair. Le second test est celui qui porte davantage sur l'amour. Aimez-vous votre frère, votre sœur, d'un amour sincère qui recherche son bien, qui est prêt à servir. Le troisième, enfin, et nous l'avons évoqué dans la présence, est celui de l'obéissance, de la justice. Êtes-vous juste ? Faites-vous la volonté du Père ? Avez-vous une attitude que Dieu agrée ? Et c'est, disons, sur ce dernier test que nous arrêterons plus particulièrement ce matin, celui d'une vie juste, d'une vie conforme à la volonté de Dieu, c'est-à-dire d'une vie qui ne se conforme pas à ce que peut nous proposer le monde. Alors, je vous invite tout d'abord à nous arrêter sur l'ordre que Jean adresse aux églises d'Asie, mais nous adresse. N'aimez pas le monde. Ensuite, à envisager les raisons d'un tel ordre. C'est l'explication. Pourquoi ne pas aimer le monde ? Et enfin, nous chercherons dans ces quelques versets et ailleurs aussi les ressources pour obéir à cet ordre qui, nous le verrons, n'est pas facile à suivre. Alors donc, tout d'abord, un ordre. N'aimez pas le monde. Alors nous avions laissé notre méditation de l'Épître à la description que Jean faisait de l'Église. Ce sont les versets qui précèdent, les versets 12 à 14. Alors Jean affirme donc dans ces versets que les croyants ont vu leurs péchés pardonnés, qu'ils ont connu Dieu, qu'ils ont vaincu le malin. Affirmation tout à fait extraordinaire de réalités qui sont acquises pour le croyant et qui devraient donc, comme nous le verrons, avoir des conséquences importantes dans notre relation avec Dieu et dans notre relation avec le monde. Alors, après ces glorieuses affirmations d'Istote, eh bien Jean passe aux avertissements. Voilà ce qu'il dit. Les chrétiens ont pris possession d'un grand héritage que nous venons de citer, le pardon des péchés, la communion avec Dieu, la victoire sur le malin. Mais, leurs tentations ne sont pas à leur terme. Alors, avant d'entrer plus avant dans cette partie, deux remarques s'imposent. Alors, tout d'abord, une première remarque pour écarter tout risque d'incompréhension, de confusion, mais enfin, je crois que vu l'assemblée que j'ai, ça ne sera pas le cas. Il nous faut définir clairement deux termes celui de monde et celui d'amour. N'aimez pas le monde. Cet ordre adressé aux croyants de ne pas aimer le monde peut sembler, pour certains, en contradiction avec d'autres déclarations du même auteur, du même apôtre dans son évangile, hein, quel est l'un des versets les plus connus de la Bible, eh bien, Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde ». Alors, y a-t-il une contradiction ? Non, bien sûr. Dans les deux versets, le monde a une signification différente. Dans Jean 3,16, le monde, ce sont les êtres humains, les créatures de Dieu, objets de son amour, et que nous sommes appelés, nous aussi, à aimer. Dans l'Épître de Jean, il s'agit davantage du monde dans sa rébellion contre Dieu, dans son rejet de Dieu. Le monde ici, c'est vraiment un système mauvais sous l'autorité de l'adversaire, sous l'autorité du diable. Et les faux prophètes que l'apôtre décrit tant font partie de ce monde mauvais. Le verbe aimer également peut avoir plusieurs significations. Dans l'évangile de Jean, enfin dans le verset Jean 3,16, il s'agit bien évidemment de l'amour qui recherche le bien de l'autre, à commencer par son salut. Dans le second cas, le cas qui nous intéresse ici, dans l'Épître, il s'agit de l'amour égoïste qui ne cherche qu'à satisfaire ses propres désirs, à prendre part au péché du monde, au rejet, à la rébellion du monde contre son Créateur. Une seconde remarque. Jean, on le voit, investi quand même d'une autorité toute particulière, hein, il est l'un des 12, l'apôtre, nous adresse un ordre, et il le fait de façon radicale. Il ne nous invite pas à avoir de la distance avec le monde, à ne pas trop nous y attacher, à avoir certaines réserves vis-à-vis de lui. Non, il nous invite, enfin, il nous ordonne de ne pas l'aimer. C'est une expression très forte, choquante peut-être pour certains. C'est-à-dire de ne faire aucun compromis avec lui, de n'avoir avec lui, de près ou de loin, aucun point commun, aucun accord d'aucune sorte. Par cette exhortation, l'apôtre nous enjoint de nous séparer de manière radicale avec le monde. Le flirt n'est pas permis. N'oublions pas que c'est l'un des tests. Il en va de notre communion avec Dieu. Ne prenons donc pas à la légère cet ordre de l'apôtre. Alors, comment savoir si nous sommes justes ? Alors, d'après Jean, on le voit dans ces quelques versets, est juste celui qui n'aime pas le monde. Alors, qu'est-ce que le monde pour Jean ? Quelle définition donne-t-il ? C'est, nous dit-il, la convoitise de la chair, des yeux et la confiance orgueilleuse dans les biens. Alors, revenons donc sur chacun de ces points. Tout d'abord, la convoitise de la chair. Alors, il s'agit ici de la convoitise, des désirs qui sont liés vraiment à notre nature déchue, pécheresse, que nous avons héritée d'Adam. Il est probable ici, ce n'est pas seulement peut-être l'idée de l'apôtre, mais il est probable que Jean ici évoque plus spécifiquement les péchés qui sont liés à la sexualité. Nous avons dit en introduction que Jean avait pour objectif de contrer l'enseignement des faux apôtres, des faux docteurs. Et parmi ces enseignements, celui qui consiste à dire que notre comportement moral, notamment en matière de sexualité, n'a finalement pas d'incidence sur notre communion avec Dieu. Ce qui leur permettait d'ailleurs, donc, semble-t-il, à ces faux docteurs, d'être très laxistes en la matière. Jean proclame ici le contraire. Vous ne devez pas céder à la convoitise de la chair. Ce que vous faites de votre corps concerne votre Père et a donc des incidences dans la communion que vous pouvez avoir avec lui. L'occasion pour nous donc de rappeler que sur le plan de la sexualité, bien pour Dieu, l'exercice de la sexualité est le mariage, exclusivement. La convoitise des yeux ensuite. Il s'agit ici non des tentations qui nous viennent de l'intérieur, qui nous assaillent de l'intérieur, la chair, mais de celles qui nous assaillent de l'extérieur. Nous voyons et nous voulons nous approprier pour satisfaire nos désirs. C'est, dit un commentateur, la tendance à être séduit par l'apparence extérieure des choses sans s'informer de leur valeur réelle. L'orgueil de la vie, enfin, dans la traduction de Anne, c'était cela. L'orgueil de la vie, il y a d'autres traductions qui parlent de confiance orgueilleuse dans les biens, qui parlent de confiance présomptueuse en ses ressources. Alors, quelle est l'idée ici ? C'est l'attitude donc, qui consiste à placer sa confiance dans ses biens, qui trouve son assurance, qui trouve sa satisfaction en eux, qui en est fier. Alors, au-delà des biens strictement matériels, ce sont finalement toutes les ressources que l'homme trouve en lui-même, que la créature que nous sommes trouve en elle-même et qu'il ne reconnaît pas justement comme venant de Dieu. Ses richesses, donc, ça peut être ses richesses, donc, mais ça peut être donc sa situation professionnelle, son statut, une reconnaissance sociale, des diplômes, des facultés intellectuelles, une vie amoureuse, familiale réussie. C'est celui donc qui place sa confiance en un autre qu'en Dieu et qui se fait donc par là même idolâtre. La convoitise de la chair, des yeux, la confiance orgueilleuse dans les biens, on le voit, sexe et matérialisme, rien de très neuf. Jean nous témoigne ici d'une lucidité remarquable sur la nature humaine. Nous faisons de la création le sexe, les biens matériels. Nous faisons de tout cela qui appartient donc à la création. Nous faisons de tout cela notre Dieu, dans lesquels nous venons trouver assurance et satisfaction. Et nous nous rendons par là même idolâtres, les plaçant à la place de Dieu, à la place de leur Créateur. Alors je ne sais pas quelle représentation nous avons du monde. Nous avons peut-être une représentation très objective, je m'explique, nous observons le monde, tel qu'il est présenté là dans ces versets, comme une réalité qui nous est totalement étrangère. Le monde, pour nous, c'est l'ensemble des personnes qui ne sont pas réconciliées avec Dieu. Ce sont tous ceux qui sont encore en guerre contre lui, qui n'ont pas reconnu Jésus le Christ comme leur sauveur et comme le Seigneur de leur vie. Et nous sommes fondés, nous avons raison, au regard des textes bibliques, à voir les choses ainsi. Il y a d'un côté ce monde hostile à Dieu et de l'autre l'Église réconciliée à lui et à présent à son service. C'est ce que nous verrons par la suite. Pourtant, ces quelques versets, le verset 15, nous invitent à avoir, en plus de cette vision du monde, une autre vision. Jean, on le voit dans ce verset 15, il s'adresse à l'Église quand il ordonne de ne pas aimer le monde. Il s'adresse aux croyants. Si le risque de convoiter, de s'enorgueillir de nos richesses n'existait pas pour l'Église, Jean ne lui adresserait pas cet avertissement. Pourtant, il le fait. Il le fait car pour lui, pour l'apôtre, le monde, c'est nous. Le monde, c'est aussi nous. Dès lors que nous plaçons notre confiance en quelque chose d'autre qu'en notre Dieu. Dès lors que nous trouvons notre satisfaction dans un autre qu'en lui. Jean a ici une vision très subjective du monde. C'est nous, ça peut être nous, c'est nous. Toutes les fois, à chaque fois que nous nous attachons aux vanités du monde. Alors, que pouvons-nous lui répondre à Jean ? Non, non, tu te trompes. Alors pour cela, je vous renvoie au verset 8 du chapitre 1 de cette même épître. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous faisons menteurs et nous déclarons Dieu menteur. Rejetons le déni et confessons nos péchés, non pas à Jean, mais à notre Dieu qui est, et c'est toujours dans cette même épître, fidèle et juste, pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est le verset 9. Confessons qu'il nous arrive trop souvent encore de convoiter, de vouloir posséder les choses et les hommes, les femmes, pour satisfaire nos plaisirs égoïstes, de vouloir satisfaire tous nos désirs jusqu'au plus coupable, jusqu'au plus honteux, et par là même de nous faire Dieu, de prendre encore trop souvent sa place. Confessons que face aux incertitudes de la vie, c'est trop souvent encore dans nos biens matériels, le compte en banque, notre maison, nos projets, dans notre réussite, on l'a dit, professionnelle, familiale, que nous nous confions, et non en notre Dieu. Alors l'apôtre Jean ne se contente pas de nous adresser cet ordre. N'aimez pas le monde. Très pédagogiquement, il nous en donne également les raisons. Elles sont au nombre de deux dans le passage médité ce matin. Au verset 15, nous lisons que l'amour pour Dieu et l'amour pour le monde sont inconciliables. Et au verset 17, Jean nous apprend ou nous rappelle que ce monde est en train de passer. Donc l'amour pour Dieu et l'amour pour le monde sont inconciliables. Ceux qui pensaient pouvoir concilier, rendre compatibles les deux, en seront pour leurs frais. Alors hier, c'était l'ouverture du tournoi des Six Nations. Bon, on ne va pas s'attarder sur les résultats, mais ce que nous retiendrons, c'est que dans un match de rugby, il y a deux équipes qui s'affrontent. Et il n'est pas pensable, par exemple, qu'un joueur aille un coup marquer des points pour son camp et sur la phase de jeu suivante, aille marquer des points contre son camp. Il ne resterait pas une minute de plus sur le terrain. Pour nous, c'est la même chose. Nous ne pouvons jouer dans les deux équipes. Nous ne pouvons aimer les deux. Il nous faut choisir. Soit l'un, soit l'autre. Soit nous attacher au monde, soit nous attacher à Dieu. S'attacher au monde, à la création, est idolâtre. Notre attachement doit revenir à Dieu, à lui seul, au Créateur de toutes choses et non à sa création. Alors de plus, le monde, initialement bon puisque création de Dieu, s'est révolté contre lui, il est déchu. Il est passé du côté de l'adversaire, il est sous sa domination. Voilà ce que Jean déclare un peu plus loin dans sa lettre, toujours au chapitre 5 et au verset 19. Nous savons que nous appartenons à Dieu, alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Chapitre 5, verset 19. Il y a deux camps bien distincts, et là on revient à la vision objective du monde. Il y a deux camps bien distincts que tout sépare, avec deux chefs, d'un côté Dieu, de l'autre le diable. Il y a opposition totale entre la nature foncièrement et absolument bonne de Dieu, notre Père qui ne recherche que notre bien, et celle totalement pervertie, mauvaise de l'adversaire qui ne veut que notre perte. Croyons-nous que nous pouvons jouer sur les deux tableaux? Si nous le croyons, nous avons en réalité déjà choisi notre camp, le mauvais. Nous pouvons abuser les croyants un temps, mais nous ne pouvons abuser Dieu. Il est celui qui voit toutes choses, qui sait toutes choses, un peu comme la foule des spectateurs qui regardent le match de rugby. Le joueur qui a marqué volontairement contre son camp peut toujours affirmer qu'il est loyal et fidèle à son équipe. Qu'il croira. On ne peut tromper Dieu. Incompatibilité donc entre notre attachement à Dieu et notre attachement pour le monde. En sommes-nous convaincus? Alors la deuxième raison pour laquelle nous ne devons pas aimer le monde, c'est le fait qu'il passe. C'est le verset 17. S'attacher au monde, nous dit Jean, c'est en quelque sorte s'attacher à du vent. S'attacher à ce qui n'est déjà plus d'une certaine manière. Alors j'ai bien conscience que réaliser que le monde passe est un exercice, j'allais dire intellectuel, non, un exercice spirituel assez difficile. Notre expérience, tous nos sens nous prouvent le contraire. Cette maison que j'ai bâtie de mes mains, elle est bien là, solide, tangible, protectrice. Cette femme, superbe, c'est bien son parfum que je respire. Cette situation professionnelle si valorisante est bien réalité, Elle est bien la mienne, mon titre, ma feuille de paix, les salutations respectueuses de mes subordonnés en sont la preuve. Qui peut croire que le soleil un jour ne se lèvera plus sur ce monde? Et pourtant, un jour, il ne se lèvera pas. Ou plutôt, il se lèvera pour un jour vraiment nouveau, le retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, jour de salut pour ceux qui l'auront aimé, pour ceux qui se seront attachés à Dieu, jour de condamnation pour ceux qui se seront attachés au monde. Difficile à croire. Alors, les derniers événements liés à la crise financière ont quelques aspects positifs, pas beaucoup, je vous le concède, mais au moins, ils ont l'avantage de nous fournir un certain nombre d'illustrations. L'affaire Madoff. Alors, en quelques mots, Madoff, d'une certaine manière, était un virtuose, enfin, oui, il était là, parce qu'il n'est plus tellement, un virtuose de la finance. Alors, des hommes, il faut savoir, des hommes, des femmes ont cru, par les services de ce financier, ils ont cru détenir des capitaux importants et ainsi s'assurer un avenir à l'abri de toutes déconvenues. Et puis la crise est arrivée. Et finalement, elle a révélé que les produits financiers Madoff, ce n'était rien. C'était du vent. Alors ils avaient très certainement toutes sortes de papiers très officiels, des bordereaux, des relevés de comptes sur lesquels sont écrits des chiffres, des nombres. Mais en réalité, ils se sont aperçus qu'ils ne possédaient rien, du vent. Le monde, d'une certaine manière, c'est un peu comme les produits financiers Madoff. Du vent, une réalité certes, mais qui est en train de passer, de disparaître. Si on mise dessus, à la fin, il ne nous restera rien. Le monde passe, il est en train de passer. Ne nous y attachons pas. Notre déconvenue serait tellement terrible. Investissons au contraire dans ce qui dure éternellement. Misons juste, misons sur ce qui est solide, inébranlable. Bâtissons nos vies sur ce qui dure, sur ce qui reste. Et nous en arrivons donc à notre dernière partie. Sur quoi devons-nous miser ? Quelles sont les ressources que l'apôtre nous propose? Alors Jean, on l'a vu, nous exhorte à ne pas aimer le monde. Il nous en donne les raisons. Mais finalement, est-ce suffisant pour parvenir à ne pas nous y attacher? Il faut bien reconnaître que notre monde qui passe, eh bien, malgré tout, a des attraits, qu'il exerce incontestablement une attirance. Et sachons-le, si notre cœur n'est pas déjà pris, inexorablement, nous nous attacherons au monde. Si notre cœur n'est pas déjà pris, inexorablement, nous nous attacherons au monde. Jean le sait. Et c'est la raison pour laquelle il donne la solution dans ce court passage. Alors, solution que nous déclinerons en trois temps. Nous verrons tout d'abord l'amour pour le Père, c'est le verset 15. Ensuite, l'œuvre du Fils. Et enfin, la vision d'un monde meilleur et éternel à venir, c'est le verset 17. Notre amour pour le Père tout d'abord. J'en suggère par ce verset que notre amour pour le monde est trop souvent la conséquence d'un amour fragile, superficielle pour notre Père. Dieu, c'est bien. La réussite professionnelle, c'est mieux. Jésus, je l'aime. Mais ma petite amie, ma fiancée, ma femme, c'est autre chose. Et si nous n'aimons pas suffisamment Dieu, si nous n'aimons pas suffisamment le Père, c'est bien souvent car nous ne réalisons pas ce qu'il est. Et justement, en raison de ce qu'il est, en raison de sa nature, ce qu'il a fait pour nous. Dans la première partie de l'épître de Jean, l'auteur évoque très souvent la personne de celui que le Père, par amour pour nous, nous a envoyé, à savoir la personne de Jésus-Christ. Nous pouvons repenser au prologue, les quatre premiers versets de l'Épître, qui parle de Jésus venu en chair. L'apôtre ensuite évoque le rôle purificateur du sang de Jésus-Christ au verset 7, le salut offert aux hommes en Jésus-Christ au verset 8. Au début du chapitre 2, Jean insiste sur l'aspect expiatoire, propitiatoire selon certaines traductions, de la mort de Jésus. Jésus est mort à cause de nos fautes et a ainsi apaisé la juste colère du Père. Enfin, Jean rappelle le pardon des péchés à cause du nom de Jésus-Christ au verset 12. On le voit, le Père, dans son amour pour nous, nous a envoyé ce qu'il avait de plus cher, son Fils, pour qu'il meure à notre place. Nous pouvons à nouveau évoquer ce verset si connu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Et pourquoi le Père, Dieu notre Créateur, a-t-il fait cela? Pour nous récompenser de nos bonnes actions? Non, parce qu'il est, parce que Dieu est amour, parce que Dieu est fidèle à sa création qui pourtant l'avait rejeté, parce qu'il est Dieu. En lui seul, finalement, se trouve la raison du salut qu'il nous offre. C'est une pure grâce. Nous n'y sommes pour rien. Quel amour! Quel amour du Père pour nous! Et après cela, nous aurions un amour à minima, un amour à mi-temps, un amour mitigé. Mais avons-nous bien compris qui il est et ce qu'il a fait pour nous? En saisissant l'amour infini du Père pour nous, nous ne pouvons plus que trouver notre pleine satisfaction en lui. Et alors, l'attrait du monde, pour nous, ne sera plus. Ou pour le moins, il ne sera plus aussi fort. Je vais lire simplement une citation d'un théologien américain que certains connaissent, John Piper. C'est une citation courte, hein, rassurez-vous, que j'ai trouvée intéressante. Le plus grand ennemi de la fin de Dieu, le plus grand ennemi de l'amour pour Dieu, n'est pas le poison, mais la tarte aux pommes. Ce n'est pas le banquet des méchants qui tue notre appétit des choses célestes, mais le fait de picorer constamment à la table du monde. Ce n'est pas la vidéo classée X, mais la bave des banalités que nous ingurgitons aux heures de grande écoute chaque soir. En effet, Dieu décrit bien ce qui nous éloigne de son banquet d'amour et les moyens dont Satan se sert pour nous causer du tort. Ce sont une parcelle de terrain, une paire de bœufs et une épouse. Il cite Luc chapitre 14. Ce sont parfois les dons de Dieu qui sont le plus grand obstacle à notre amour pour lui. Les aliments les plus mortels ne sont pas le poison du mal, mais les plaisirs ordinaires de la terre que Dieu nous offre, à partir du moment où ils prennent la place de notre amour pour Dieu. L'idolâtrie est à peine perceptible et presque déjà incurable. D'où pour nous la nécessité de revenir sans cesse à l'amour du Père pour nous, pour l'aimer en retour et résister à l'attrait du monde. Notre amour doit être la réponse à son amour. Notre amour doit se nourrir de l'amour du Père pour nous. Alors, il est un autre aspect de l'amour de Dieu pour nous que j'aimerais rapidement évoquer, même si c'est vrai, il n'apparaît pas dans ce passage. Court. Par amour pour nous, nous l'avons déjà dit, Dieu le Père nous a offert son Fils pour qu'il meure à la croix. Mais à la croix, Jésus n'est pas seulement mort à notre place, il a aussi vaincu le monde. L'apôtre Jean, toujours, c'est lui encore, mais cette fois-ci dans son évangile, rapporte les paroles de Jésus alors qu'il s'adresse à ses disciples. Il leur annonce qu'il a vaincu le monde. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. C'est Jean, chapitre 16, verset 33. La croix marque la défaite de Satan et du monde en tant que système mauvais. Elle marque dans le même temps la victoire du royaume de Dieu. Satan est jugé, condamné, le monde sur lequel il régnait également, et c'est la raison pour laquelle il passe. Le monde est vaincu à la croix. Christ a vaincu le monde. Et c'est donc seulement en lui, en Christ, en nous approchant de la croix, en nous mettant au bénéfice de son œuvre, que nous pouvons à notre tour connaître la victoire sur le monde, résister à ses attraits. Voilà ce qu'écrit l'apôtre plus loin dans son épître au chapitre 5, versets 4 et 5. Je lis rapidement. Car tout ce qui est né de Dieu, nous sommes nés de Dieu par sa grâce. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est en nous réfugiant, l'idée de se réfugier, dans l'œuvre de Christ à la croix, c'est en y allant, en y retournant constamment, à chaque fois que nous serons tentés, à chaque fois que les attraits du monde nous paraîtront insurmontables, à chaque fois que nous serons tentés de mettre notre confiance en nous-mêmes, dans la création. C'est en allant à la croix que nous pourrons nous aussi triompher, que nous pourrons nous aussi être vainqueurs du monde, non en vertu de nos propres forces, mais en vertu de la victoire de Christ que nous pouvons désormais nous approprier. Alors nous terminerons. Jean, au verset 7, nous invite à présent à regarder au-delà de ce monde, qui est, on l'a dit, en train de passer. Il nous invite à regarder au-delà, vers un monde meilleur. Et celui-ci, il ne passera pas. Il déclare donc à la fin, « Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Jean nous invite à ne pas nous attarder sur ce monde, mais à déjà porter notre regard vers la nouvelle création qui vient. Elle est là, elle est en train d'arriver. Souvenez-vous de ce que nous avons entendu dimanche dernier, François l'a évoqué également. Le croyant authentique, c'est celui qui s'appuie sur Dieu et non sur les bénédictions que dans sa grâce il nous accordera. Et c'est également celui qui regarde déjà avec assurance vers ce monde meilleur à venir. Nous ne savons ce qui nous attend sur cette terre, nous ne savons sur quelle liste notre nom est inscrit. Je parle ici donc de la liste qui, dans Hébreux 11, serons-nous de ceux qui verront la puissance libératrice de Dieu s'exercer dans nos vies, sur cette terre? Ou serons-nous de ceux qui souffriront jusqu'au bout à cause de notre fidélité? Il est probable que nous serons un peu sur les deux listes, connaissant dans notre vie des moments de délivrance miraculeuse, connaissant également des temps de souffrance que Dieu, dans sa souveraineté, ne fera pas cesser. Ce qui est certain, c'est qu'en suivant l'ordre de Jean de ne pas aimer le monde, nous souffrirons. Et c'est alors qu'il nous faudra demander à Dieu dans sa grâce de nous permettre d'entrevoir ce nouveau monde meilleur et éternel qui nous attend et dans lequel nous serons pleinement heureux dans la présence de notre Dieu, lui rendant cette fois-ci l'adoration parfaite que malheureusement nous n'avons pas su toujours lui apporter ici-bas du fait de notre amour pour le monde, du fait de notre adoration pour le monde. Alors avons-nous avec le monde la relation que le Seigneur désire? Là, je laisse à chacun s'examiner devant Dieu. Ce qui nous amène d'ailleurs à nous poser la question suivante. Avons-nous avec notre Dieu la relation qu'il attend? Jean nous exhorte à ne pas aimer le monde, à ne pas nous y attacher, à ne pas y chercher notre assurance et notre satisfaction. Nous serons inévitablement confus, insatisfaits et malheureux. Pourquoi ? Car telle n'est pas notre vocation. de placer notre confiance dans la création, d'y chercher tout notre plaisir, en d'autres mots, d'adorer la créature, de nous adorer nous-mêmes. Cette création, j'en le dis, elle passe. Elle n'est pas éternelle. En réalité, elle est déjà condamnée par son créateur, car elle a déclaré la guerre à son créateur. Le monde est mauvais. Notre vocation est d'adorer le Créateur, d'aimer le Père, de le servir quoi qu'il nous en coûte. Notre assurance est la vie éternelle à venir, dans la présence de Dieu même. Quelle est notre relation au monde? Quelle est notre relation à Dieu? La vraie question n'est pas de savoir qui nous aimons le plus, mais tout simplement qui nous aimons. Qui aimons-nous Dieu? À qui nous attachons-nous? À Dieu, notre Père, à son Fils Jésus-Christ, ou au monde? Que le Seigneur, dans sa grâce, nous conduise pour faire le bon choix. Amen.